Bonjour bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous allons parler d'un sujet, l'Évangile. L'Évangile. Comprendre qu'est-ce que l'Évangile. Pour cela, nous allons lire un texte dans Luc chapitre 2. L'Évangile veut dire littéralement « bonne nouvelle ». L'Évangile dans la Bible, c'est la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul Évangile. Donc, une seule bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a quatre Évangiles, mais il y a une seule bonne nouvelle. Luc 2, nous allons lire à partir du verset 8. Hein. Ce chapitre, c'est suite à la naissance de Jésus-Christ. Et il est dit au verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre » parmi les hommes qu'il agrée, parmi les hommes qu'il aime. Ici, on peut résumer l'Évangile. Premièrement, l'Évangile concerne tout le peuple. C'est ce qui est dit au verset 10. Verset 10, une bonne nouvelle. En plus, avant tout, il est dit une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Deuxièmement, l'Évangile crée la joie. Dans ce même verset, après avoir dit une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, il est dit le sujet d'une grande joie. L'Évangile crée la joie. C'est un sujet de joie, cette bonne nouvelle. Troisièmement, l'Évangile, la bonne nouvelle, un sauveur nous est né. C'est ce qui est dit au verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Messie. Et enfin, l'Évangile est là pour louer Dieu. Dieu est loué au verset 14. Nous a dit, l'armée céleste est louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Voilà en résumé ici ce qu'est l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, l'Évangile transparaît aussi dans les Écritures. Et Ésaïe 7, verset 14, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, et voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui vient, le Seigneur. Voyons que Dieu lui-même est venu pour sauver l'homme du péché. C'est ça la bonne nouvelle Nous qui avons offensé Dieu, Dieu lui-même vient nous sauver. Voyons que l'évangile a son origine en Dieu et qu'il a promis dans l'Ancien Testament qu'il viendra lui-même nous sauver. Dieu viendra lui-même nous sauver et nous sauvera, dit la parole de Dieu. C'est ce que dit l'évangile. La parole de Dieu dit aussi dans Ésaïe 61, verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il y a toujours l'expression « de bonnes nouvelles ». Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, pourquoi Dieu ne sauve que par Jésus-Christ? À cause du péché, nous méritions tous la condamnation. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a condamné son Fils pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. À Romains 8, verset 1, « Et si nous acceptons son Fils, plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous acceptons son Fils, plus de condamnation. » Et Romains 8, 33, si on accepte le Fils de Dieu, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Dit le verset 34. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Si nous acceptons son Fils, plus de condamnation. Nous connaissons ce verset par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela est dit dans Romains 3, versets 23 et 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas « moi, j'ai fait quelque chose ». Nous pouvons le constater en partageant ces quelques paroles. Ce n'est pas « moi, j'ai fait quelque chose ». Par exemple, faire un pèlerinage. Mais l'évangile, c'est « Dieu a fait ». Dieu a fait en donnant son Fils. Dieu a fait en donnant son Fils pour nous. L'évangile, ce n'est pas la loi. Ce ne sont pas les pèlerinages, mais c'est la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Et cela est dit dans Galates 2, verset 16, « afin d'être justifié par la foi en Jésus-Christ » et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Un autre texte nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Cela est dit dans Galates 3, verset 13. Ici, nous voyons que nous obtenons la libération, la rédemption qui est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle vient de Dieu en Jésus-Christ. Car Dieu a déjà donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous pouvons lire en 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En résumé de ce texte de 1 Jean 5, si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Seulement si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Nous savons que l'homme est incapable d'observer toute la loi, sinon le Christ seul. Alors Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Si Dieu a condamné quelqu'un qui n'a jamais péché, ne nous condamnerait-il pas? Il n'y a sous le ciel, dit la parole de Dieu, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus. Qui est vraiment Jésus? 2 Corinthiens 5, verset 21. Alors que Jésus ne méritait pas la condamnation, Dieu l'a condamné à notre place. Celui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si nous mettons notre confiance en lui, plus de condamnation. Dieu pardonne, alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre condamnation sur lui. L'évangile, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça. Jésus a pris notre condamnation sur lui. Il a payé. Nous n'avons rien à payer. Jésus était plus qu'un prophète. Nous avons déjà dit que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il est cet enfant dont il a dit « La jeune femme viendra. » Et elle va mettre au monde un enfant. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui, il est cet enfant. Dans cela est dit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dieu vient, Dieu avec nous. Il est cet enfant qui nous est né, cet enfant qui nous est donné et qu'on appelle admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et nous connaissons Jean 1, où il est parlé de la parole. Il est la parole. Et il est dit que la parole était avec Dieu. La parole, elle était Dieu. Elle était créatrice. La parole a été faite chair. Et c'est, il est parlé ici de Jésus-Christ. Sur la terre, Jésus était l'image de ce Dieu invisible. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visible et invisible. Tout a été créé par lui et pour lui, dit la parole de Dieu. Jésus, on pourrait se poser la question, a-t-il lui-même dit qu'il est Dieu? Il y a un texte de la parole qui dit, et cela dans Jean 8, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, » c'est Jésus qui dit ça, dans Jean 8, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et on lui posera la question, « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus dit, je suis. Il ne dit pas j'étais, mais je suis, c'est-à-dire éternel. Jésus ne cache pas son identité avec le Père. Moi et le Père, dira Jésus, nous sommes un. Il dit cela dans Jean 10, verset 30. À la question du disciple Thomas, lorsque Jésus lui dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez. Et l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus ne cache pas son identité avec le Père. Jésus lui dit, dans Jean 14, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus va dire, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il y a l'histoire aussi de cette femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Et Jésus va lui dire tout ce qu'elle a fait. Nous trouvons ça dans Jean 4. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. J'ai envie de dire, il vous annoncera l'Évangile. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oui, je suis le Christ, le Messie. Venez voir, dit la femme, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et puis, plus loin, Jésus va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et plusieurs Samaritains de cette ville où cette femme était crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'avait point de mari, dit l'histoire. Et Jésus va dire, tu as raison de le dire, quand Jésus lui a posé la question. Où est ton mari? Car tu as eu cinq maris, Jésus va lui dire. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Mais un beaucoup plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus dans cette ville. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est le verset 42. De ce chapitre 4 de Jean, verset 42. Car nous l'avons entendu. Vous savez, l'Évangile, c'est ça. On entend la parole de Dieu. On entend l'Évangile. Nous l'entendons nous-mêmes. Et nous avons une décision à prendre quand nous entendons l'Évangile. Et les gens qui étaient là disent, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. L'Évangile nous amène à réaliser, à comprendre que Jésus est le sauveur du monde. Ce verset, ici, la certitude que Jésus est le sauveur du monde. Nous connaissons aussi 1 Timothée 2 qui dit, c'est un texte pour ceux qui croient en Jésus, mais qui croient en d'autres intermédiaires. 1 Timothée 2, il est dit, car il y a un seul Dieu. Ça, cela doit être clair pour nous. Il y a un seul Dieu. Mais aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui est vraiment Jésus-Christ? Il est Dieu. Le disciple Thomas dira « Mon Seigneur et mon Dieu » après la résurrection de Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est le créateur, Dieu notre sauveur. Crois, dit la parole, et tu seras sauvé. Mais aussi longtemps que tu ne croiras pas, tu ne seras pas sauvé. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà notre salut. Voilà la bonne nouvelle. Quand la Bible parle du salut, il s'agit de l'intervention de Dieu pour sauver et racheter l'homme du péché. L'évangile est bonne nouvelle, car au lieu de la condamnation, il y a la réconciliation. Au lieu d'être condamné, Dieu donne la vie en son Fils. Au lieu de nos efforts, Dieu nous donne la foi. C'est la grâce de Dieu. C'est l'évangile de la grâce de Dieu qui nous apporte le message de Jésus-Christ qui est le véritable sauveur. Oui, Jésus-Christ est la révélation de Jésus-Christ comme sauveur. Au lieu de la malédiction, nous avons la bénédiction. La bénédiction d'Abraham. Parce que tout a commencé par Abraham, par la foi. Pour parler du salut, il faut aussi voir le péché avant. Il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. C'est lui, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui nous réconcilie avec lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les hommes sont condamnés. La mort, nous pouvons réaliser que c'est une attestation que tous les hommes ont péché. C'est la mort physique. Tous nous mourons. Mais il y a la mort spirituelle aussi. Plus de communion avec Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Il y a aussi la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Pour ceux qui, étant sur la terre, n'ont pas accepté Jésus-Christ. Aucun homme ne peut prétendre ne jamais pécher. Dans un texte dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, « Non, il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais », dit ce texte. Ecclésiaste 7, verset 20. Ce que Dieu a fait les hommes droits, dira le verset 29 de ce chapitre, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Quand on rejette Dieu et sa parole, nous pouvons voir les conséquences. Il est dit, car la colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété et toute injustice des hommes, parce qu'il n'y a pas d'honneur ni de respect pour Dieu, qui retiennent injustement la vérité captive. L'incrédulité de refuser Dieu fait qu'il y a toutes sortes de comportements. Le péché a libre cours, car quand on refuse Dieu, les conséquences sont là. Le plus grand péché, c'est de refuser de croire en Jésus-Christ et qu'il est l'unique sauveur. Ne pas croire en Jésus, c'est ça le péché. Et c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Pour définir le péché, il y a la désobéissance et l'incrédulité. Refuser de croire. En dehors de Jésus, point de salut. Acte 4, versets 11 et 12, il est dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. En dehors de Jésus, point de salut. C'est pourquoi les hommes ont besoin de l'évangile. Voilà ce que cet évangile nous révèle. En Romains 1, verset 17, Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en lui. Nous apprenons comment cette justice que Dieu attribue naît de la foi et la fait grandir. Ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, le juste vivra par sa foi. Ici, nous voyons que l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait l'homme par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle que le juste vivra par la foi. Celui qui place sa foi en Dieu sera juste devant lui. Sa foi sera pour lui source de vie. L'Évangile révèle la justice de Dieu. Terminons en nous rappelant que dans la Bible, quand il est parlé de salut, il s'agit de l'intervention de Dieu pour sauver, racheter l'homme. Dieu se présente comme le sauveur, comme le rédempteur, le libérateur. Il y a un texte, c'est Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici que notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, car l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Il y a un autre texte, Ésaïe 41, verset 14, ici c'est le libérateur. Ne crains rien, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Ésaïe 43, verset 11, ici le sauveur, c'est moi qui suis l'Éternel, hors moi il n'y a point de sauveur. Dieu est là et il est venu en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui vient pour nous sauver. Voici le programme du salut, bien-aimé, pour terminer. La bonne nouvelle. Jésus m'a dit, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Voilà le programme du salut. Et ce salut, il est dit, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Et enfin, c'est la grâce. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, l'évangile de la grâce. Dieu nous apporte le message de Jésus-Christ et la révélation de Jésus-Christ comme sauveur. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole, que sa parole est là, c'est la bonne nouvelle pour nous. Attachons-nous à la parole de Dieu. Il est dit, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Comprendre, c'est vraiment s'en convaincre. Quand je lis la parole, je dois me convaincre, avoir une profonde conviction que c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité. Et parvenir à connaître, à comprendre ce que quelqu'un pense, ce que Dieu a écrit. Je dois parvenir à comprendre ce que Dieu a écrit. Notre cœur, le cœur doit comprendre ce qu'il entend. ce que nous lisons, notre cœur doit arriver à comprendre ce que l'on entend. Le but est de se tourner vers Dieu, se convertir et de recevoir le pardon de nos péchés. Sachons écouter, sachons entendre la parole avec un esprit ouvert et la retenir dans un cœur honnête et bien disposé pour notre salut, pour être sauvé et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen.
Recording stopped.
Merci Émile pour le message de la parole de Dieu. Nous allons juste passer au moment des offrandes. Jessie, si tu veux passer pour récolter les offrandes. Je vais rappeler le frère Émile, juste à côté. Jessie, c'est déjà posé avant.
Prions pour rendre grâce à Dieu pour cette offrande. Et ensuite, nous aurons la bénédiction. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu nous donnes l'esprit de donner. Merci de bénir cet argent, que cela serve, Seigneur, à l'avancement de ton règne ici-bas. Donne-nous la sagesse pour l'utiliser. Merci pour tous ceux qui travaillent, qui donnent. Merci de nous apprendre à donner et que tu sois glorifié aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Je vous invite à vous lever dans mon prier. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril pour l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu, remettez-lui toute votre angoisse parce qu'il se soucie de vous. Dieu n'est pas dans le tumulte, mais dans la paix. Que la grâce et l'amour avec la foi soient donnés à chacun de vous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.